France Culture.
Dernière étape.
Bonjour.
Salut.
Alors. France Culture, le Book Club. Dans la bibliothèque de Barbara Pravi.
Merci. Ah oui, non, j'ai pas pris sorcière, tu ne bosses pas grave.
Chez moi, on se raconte des fables anciennes qui passent de mémoire en mémoire. Voilà ce que vous chantez dans la Pieva, titre éponyme de votre dernier disque, Barbara Pravi. Raconter des histoires, c'est aussi comme ça que vous évoquez l'écriture des chansons. La possibilité ou l'art de raconter semble donc important dans votre parcours. Important aussi quand il s'agit de mettre des mots sur des épisodes douloureux, de prendre la parole, d'écouter celle des autres, la recueillir ou la chanter. Alors on a eu envie de savoir quelles histoires vous aimiez lire. Dans les textes que vous avez choisi de partager avec nous aujourd'hui, comme une photographie instantanée de votre bibliothèque, on trouve l'histoire d'une amante qui ne veut pas rendre le corps mort de l'homme qu'elle a aimé, mais aussi un périple montagnard à l'affût des signes que nous enverrait l'existence, ou encore un poème iranien du XIIe siècle, Cantique des oiseaux, ou encore un roman que Christian Bobin adresse comme une prière, une oraison funèbre à son amour disparu, mais aussi L'art de la joie de Goliarda Sapienza, ou l'essai que Mona Chollet avait consacré à la figure de la sorcière. Entrons de ce pas dans votre bibliothèque. Merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation du Book Club de France Culture. Barbara Pravi, bienvenue du coup chez vous, un petit peu.
Dans ma bibliothèque.
C'est ça ? On est d'accord.
Bon. Je suis ravie d'être là.
Merci beaucoup à vous de partager vos lectures. Tous les book clubs et tous les portraits de bibliothèque commencent par une sorte de portrait de vous en tant que lectrice. Et ce questionnaire lecture commence toujours de la même manière. Est-ce que vous vous souvenez où, quand ? À côté de qui et peut-être dans quel paysage vous avez appris à lire ?
Je m'en souviens hyper bien. Alors, je me souviens de la première fois que j'ai été indépendante en lecture. C'est-à-dire que, d'abord, dans mon prénom, il y a trois lettres, vu que je m'appelle Barbara, B-A-R. Et donc, il était assez facile à écrire, assez difficile à prononcer. Et je me souviens que j'avais 3 ans, je me baladais sur le port Santa Lucia, qui est un port à Saint-Raphaël, avec mon oncle, Alain. Et évidemment, il y a marqué bar partout, puisqu'il y a des bars. Et à un moment donné, je m'arrête devant, je sais pas, ça devait être une crêperie qui faisait bar aussi. J'ai vu bar en rouge. Et j'ai dit, regarde, c'est mon prénom. Mmh. Et il a été hyper surpris parce que j'avais vraiment 3 ans. Et que normalement, à 3 ans, on sait pas lire ou, en tout cas, c'est pas des choses qui nous, les lettres n'existent pas encore à cet âge-là. Et voilà. Et c'est un peu la légende. C'est comme ça que j'ai commencé à lire.
Est-ce que ça vous a mis en appétit pour autre chose que votre seul prénom ? Est-ce que vous avez eu envie de lire des choses ?
Je ne sais
lire
aujourd'hui.
Que Barbara désormais.
Ma mère était professeure des écoles quand j'étais plus jeune. Du coup, elle était aussi un petit peu obsédée. En fait, elle était très douce avec les enfants, ma mère. Et du coup, elle prenait vraiment soin de la lecture. Elle a vraiment appris à beaucoup de jeunes enfants à lire. Et donc moi, elle me lisait tout le temps des histoires. Elle m'a appris à lire très très tôt. C'est-à-dire que je suis arrivée au CP, je savais lire déjà grâce à ma mère, parce que elle appliquait un peu ses techniques de prof sur moi très jeune en fait.
Donc à la maison, vous avez appris à lire avant à l'école ?
Oui, complètement.
Il y avait des livres dans cette maison ?
Il y avait beaucoup, en tout cas dans ma chambre, il y avait énormément de livres pour enfants. Je pense que je connais tous les livres pour enfants, je les connaissais par cœur au départ. En fait, j'ai appris à lire, tiens, d'ailleurs, parce que je connaissais par cœur. Et en connaissant par cœur, je mettais mon doigt en dessous des mots, et du coup, je savais à peu près quel mot représentait quel son, je vais dire, puisque je connaissais le livre par cœur. Mmh. C'est comme ça que j'ai appris à lire, en fait.
Il y a une sorte de petite coïncidence qui s'est fabriquée.
Exactement.
Entre l'histoire que vous connaissiez par cœur et les signes sur le livre.
Exactement. Du coup, on sait que le A, ça fait A. Enfin, je sais pas comment expliquer, mais il y a une cohérence, en fait. Ça s'imbrique. Et voilà, c'est comme ça que j'ai appris à lire, en fait.
C'est rare des souvenirs aussi précis de ces premiers moments de déchiffrage. Ça veut dire que ça vous a laissé une trace très joyeuse ou c'est en lien avec le métier de votre maman? Pourquoi est-ce que ce serait si précis dans votre tête?
Je crois que... Bon, d'abord, j'ai beaucoup de souvenirs de quand j'étais très jeune. Je suis quelqu'un avec
aussi,
une grosse mémoire des émotions. Donc, et en fait, je pense que ça a dû me faire des émotions très fortes, puisque ça a dû ouvrir des portes dans ma tête. Pour moi, la lecture, c'est pas seulement des mots, c'est vraiment des petits mondes qui s'ouvrent. Donc, quand je lis quelque chose, quand j'aime un bouquin d'ailleurs, c'est souvent parce que je suis transportée quelque part. Et quand je termine un livre, j'ai l'impression de quitter des amis. Enfin, j'ai vraiment un lien... charnel presque à la lecture. Donc, et je crois que ça me faisait déjà ça. Ça ouvrait déjà des images ou des couleurs ou des odeurs. Mmh. Enfin, c'est très sensoriel la lecture pour moi.
Si on essaye de réattraper justement dans ces souvenirs-là de la petite enfance des mondes ou des livres qui auraient été importants, des choses dont vous vous souvenez vraiment, pas des choses qui seraient reconstruites, mais vraiment des imaginaires. Des histoires, des personnages.
Je sais que j'adorais le poisson arc-en-ciel, par exemple. Celui, c'est un petit poisson qui a une nageoire qui brille. Alors, c'était, évidemment, c'était des livres illustrés, donc c'est plus simple quand on est petit d'avoir les images qui se fabriquent avec les mots. Mais je sais pas, je me souviens d'avoir fait des rêves complètement fous en dessin animé. Enfin, je sais pas, j'ai des, vraiment, encore une fois, des sensations très physiques, corporelles, quoi. Voilà.
Alors, si on avance un petit peu dans le temps et qu'on quitte la littérature pour enfants ou les livres pour enfants, est-ce que vous vous souvenez, Barbara Pravi, d'une lecture qui serait arrivée à l'adolescence, par exemple? Quelque chose qui vous aurait fait entrer dans un autre territoire de lecture, qui serait plus exactement les livres pour enfants, qui serait plus « J'apprends à lire avec ma maman », mais qui serait quelque chose peut-être un peu plus à vous?
Eh ben, c'est marrant, j'y pensais tout à l'heure, le livre qui a vachement changé. Alors, c'était « Twilight ». Donc l'espèce de c'est en plusieurs bouquins en plus.
C'est une saga.
C'est une saga, ouais. Et alors c'était bien avant que le film sorte. Et je me souviens de j'avais eu un lit mezzanine avec un canapé en dessous dans ma chambre. J'avais passé la nuit entière. C'est ma première nuit blanche. J'avais passé la nuit entière à lire ce livre. Je pouvais pas décrocher de ce livre. Et j'avais lu donc le tome 1, tome 2, tome 3. Et puis le film était sorti. Et je me souviens que j'avais eu pour la première fois la sensation qu'on avait coupé le scénar, ça m'avait angoissée. J'étais là, mais attends, mais c'est pas possible, c'est pas du tout ce qui se passe à ce moment-là,
c'est
pas vrai. Par contre, je voyais la ville, les visages des personnages.
En et, lisant
En lisant.
Oui, avant le film.
Ça a été extrêmement bien adapté. C'est-à-dire que c'était exactement cet univers-là, presque exactement ces gueules-là, alors que les acteurs, je les connaissais pas du tout, puis ils étaient pas connus à l'époque. Kirsten Stewart, je sais pas qui, Robert Pattinson, etc. C'était leur premier film, je crois. Et donc, j'avais été hyper touchée. Je m'étais dit, mais c'est fou. Ils ont adapté ma vision au cinéma, sauf qu'ils ont tout coupé.
Il n'y avait pas assez de choses.
Il n'y avait pas assez de choses, mais c'est souvent comme ça. Je crois que, moi, j'ai pas lu Harry Potter, par exemple, mais je sais que tous mes amis qui l'ont lu sont hyper tristes de la différence entre le livre et le film. Enfin, c'est toujours comme ça, quoi. On peut pas tout mettre dans un film.
Alors, il y a quoi pour Twilight, pour les vieilles personnes comme moi qui ne connaissent pas et qui n'ont pas lu Twilight?
À vrai dire, je m'en souviens mal. C'est pas
tant... C'est quel univers?
Ah, c'est un univers avec des vampires, des loups-garous. Y a cette nana qui tombe follement amoureuse d'un mec qui, en fait, est un vampire. Donc, il est sur Terre depuis 200 ans et il va la mordre. Enfin bon, c'est une espèce de romance un peu ado. Mais l'univers qui est fabriqué autour était hyper beau. Et puis, hyper dans les tons un peu bleus. Il y avait vachement de brouillard. C'est dans un espèce de pays. C'est en Angleterre, je crois, mais il fait hyper froid. En fait, tout était très... Ce qui compte dans un livre, c'est vraiment, en fait, presque l'histoire, elle tient aussi vachement sur le décor qui porte l'histoire. Et je trouve que le décor était vachement bien fait dans Twilight.
Est-ce que vous avez eu d'autres nuits blanches après ça?
J'ai souvent des nuits blanches pour lire, mais c'était plutôt, pour le coup, c'était moins des romans. C'était plutôt des par exemple, j'ai Bonjour Tristesse, que j'avais lu dans la nuit, Bobin, dont on va parler tout à l'heure. Je l'ai lu en deux heures, dans une nuit.
Comment vous arriviez à ces... Parce que là, on est toujours dans la fin de votre adolescence. Comment vous arrivez à ces textes-là?
Non, justement, je lisais assez peu ado. Ouais, assez peu.
Et assez peu égale pas du tout ou...
Non, égale j'ai toujours eu des livres. L'objet livre a toujours été hyper important
près
pour moi.
Vous, ouais.
Oui, c'est, je sais pas pourquoi, c'est quelque chose... Je me sens bien quand j'ai des livres. D'ailleurs, là, je suis en plein déménagement. Et il y a deux choses que j'arrive pas à retirer de mon appartement. C'est mes tableaux au mur et mes livres. C'est les choses que je vais enlever en dernier. Je déménage vendredi prochain. Et je vais retirer ces affaires-là jeudi soir.
Mais jusqu'au bout, quoi, vous habitez avec eux.
Ouais, sinon je me sens pas chez moi. D'ailleurs, quand je pars en tournée, j'emmène toujours 4 ou 5 livres, alors qu'évidemment, j'ai pas le temps de les lire, et puis surtout, je peux pas lire 5 livres en même temps. Mais je sais pas, c'est important, c'est comme des petits talismans, en fait.
Donc, il y avait des livres autour de vous, mais vous aviez autre chose à faire que de lire à ce moment-là.
Je lisais un peu. Je devais lire, je sais pas, 3-4 livres par an. Mais j'aimais les avoir. Et puis, quand je suis arrivée en seconde, j'étais en cours de français et on commençait les commentaires de texte et j'étais nulle. Et à la fin d'un cours, je me souviens d'une prof de français qui était venue me voir et qui m'avait dit « Barbara, vous faites semblant d'être nulle. La vérité, c'est qu'on vous a jamais dit que vous étiez intéressante et que vous aviez des choses à raconter. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais vous donner d'autres livres à lire. Et c'est ces livres-là que vous allez me parler de ces livres-là. Et vous me direz pourquoi vous les avez aimés, qu'est-ce que vous avez aimé. » Et grâce à cette femme, j'ai commencé à lire donc en seconde Belle Amie, par exemple, de Maupassant. Victor Hugo, elle m'avait fait toute une, je sais pas, une dizaine de
incroyable.
Bouquins comme ça. Incroyable. Non, mais elle m'a changé la vie, cette femme.
Incroyable.
Extraordinaire. Et ça m'a ouvert à la lecture, pour de vrai. Et surtout, j'ai décidé, je crois que c'est des choix, en tout cas pour moi c'était un choix. J'avais envie d'être une femme qui lit. C'était important pour moi. quand j'imaginais la femme que j'allais être plus tard, quand j'avais 15, 16, 17 ans, je m'imaginais assise dans un canapé en train de lire devant un feu. Et ben donc et je crois que c'est des projections qu'on a et on choisit de les
ouais, qui ne sont pas sans incidence bien sûr. Comment une jeune femme se projette comme une femme qui lit c'est pas rien.
Ouais.
Ça voulait dire quoi pour vous une femme qui lit? Parce que ça peut amener plein de trucs. Ça peut dire une femme qui a le temps d'être seule.
Oui, c'est vrai.
Ça peut être une femme qui pense.
Ben, je pense que je me suis jamais posé cette question. Tiens, je sais pas,
c'est assez beau. Qu'est-ce que serait alors? Pourquoi à 15 ans on se dit tiens, moi je serais une femme qui lit? C'est fort quand même.
Je pense que je savais déjà que je finirais un jour par raconter des histoires. C'est-à-dire que si j'avais pas été chanteuse, j'aurais été autrice. D'ailleurs, ce qui arrivera, bien sûr. Oui, et puis ce qui arrivera, c'est une évidence. J'ai toujours eu envie d'écrire un roman. Donc je sais pas comment dire. Pour moi, les mots, ça a toujours été une forme de sécurité. Une forme de safe place, quoi, carrément. Donc, et puis c'est surtout que j'ai toujours été beaucoup dans ma tête. C'est pas évident pour moi de me concentrer longtemps sur quelque chose. J'ai toujours voilà les sons, les odeurs, les bruits. Ben les sons et les bruits c'est pareil, mais les situations me font toujours penser à plein d'autres choses. Et donc du coup, je crois que les mots c'est un moyen pour moi d'ancrer quelque chose dans le réel, quelque chose qui est vaporeux puisque la pensée est vaporeuse quoi.
Ça a toujours été lié pour vous la lecture et l'écriture? Ce désir d'écriture et de raconter des histoires, il est comme venu presque organiquement se mêler avec le plaisir d'en lire et d'en raconter et de s'en faire raconter?
Complètement. Alors, je suis moins bonne à l'oral parce que j'invente beaucoup de trucs. On me dit que je suis marseillaise, j'en rajoute tout le temps des caisses. Mais
ça peut faire des bons raconteurs. Ça peut faire des bons histoires. Les gens qui en font des caisses.
Bon one-man show, bah, ouais. mais, je sais pas, c'est un truc... J'adore qu'on me raconte des histoires. Je peux passer des heures. D'abord, il y a une forme de curiosité, c'est-à-dire moi je suis quelqu'un de très curieux. Je peux littéralement tomber amoureuse de n'importe qui me raconterait une histoire, mais même quelqu'un qui me raconte comment il a bu son café ce matin
et c'est fait avec art.
Exactement, avec les détails. Donc ce matin, je suis arrivée dans ma cuisine, il y avait du carrelage bleu et puis là, j'ai allumé ma machine à café et elle a fait un bruit, ça faisait brrr. En fait, n'importe quoi. Moi, je suis dans la scène quoi. Je suis là et je vois le film en fait et j'adore. C'est des films, c'est très proche du cinéma, la littérature.
Alors, à l'adolescence, il y a des livres, ils sont là, vous les aimez, mais vous les ouvrez peu. À quel moment, donc il y a cette prof de français, ok, seconde, bon. À quel moment vous devenez la femme qui lit que vous rêviez d'être à 15 ans?
Je dirais vers 18-19 ans, il s'est passé un truc, je sais pas, je me souviens pas de l'événement, mais je me souviens que je me suis... Si, j'ai eu mon bac. J'ai eu mon bac et j'ai passé un bac L, donc il y avait de la littérature. On avait 4 œuvres à étudier et au bac, on tombait sur un sujet, sur un livre de ces 4 livres. Et sur ces 4 livres, c'était 4 livres qui avaient été écrits par des mecs. Et moi, ça m'a énervée. Je me suis dit, mais en fait, je comprends.
Quelle année, juste pour savoir
Du coup, je vais avoir 32 ans et j'avais 18 ans, donc j'étais nulle en maths.
Ans.
J'ai fait
okay,
de la littérature, encore une fois. Ouais, 2010, je crois, en effet. Et,
Donc c'est un peu dans l'air, c'est juste pour dire ça. 2010, l'idée que vous puissiez être énervée parce qu'il n'y a que des hommes, non?
Oui.
Même un peu avant que ce soit dans l'air?
C'était dans l'air, mais je ne savais pas d'où ça venait. Je crois que j'ai commencé à mettre des mots à ce moment-là, juste après le bac, en fait.
Sur le tien, c'est bizarre, je ne lis que des hommes.
Je ne lis que des hommes, en histoire, je n'apprends que des événements où il y a des hommes. En fait, j'avais aucune place, dans aucun endroit de tous mes cours, il n'y avait aucune place pour moi. Donc, je ne pouvais me faire aucune projection sur ce que j'avais envie d'être, puisque je me rendais bien compte que j'étais très mauvaise à l'école. J'avais ni envie d'être médecin, ni avocate, ni de faire des études de commerce. Donc en fait, je ne voyais pas de possible. Donc la littérature, ça a été une forme de bouée de sauvetage pour moi. Parce que je me suis dit, ok, il y a un endroit... En tout cas, qu'est-ce que j'aime? Je me suis posé cette question-là. Je me suis dit, qu'est-ce que j'aime? J'aime lire. Je crois que j'aime lire. Donc je vais aller chercher dans ce côté-là de ce que j'apprécie. Et... J'ai décidé de n'acheter que des livres écrits par des femmes. Donc, je me suis constituée une bibliothèque de meufs. Et j'ai commencé à lire... Alors, au départ, c'était George Sand. J'ai lu... Et puis, alors, moi, je suis obsessionnelle. Donc, quand j'aime un auteur, je ne lis que ça. Ou une autrice. Donc, j'ai lu tout George Sand. Ensuite, j'ai lu Françoise Sagan. Et voilà, c'est arrivé un peu comme ça. J'ai Irène Némirovski. Et puis, plein de littératures différentes. Et je me suis rendu compte qu'en fait, il manquait pas d'autrices. Il manquait d'espace où on en parlait. Et dans les espaces publics, c'est-à-dire les lieux d'apprentissage que sont l'école, et puis l'école jusqu'à nos 18 ans quand même, on n'avait pas accès à cette bibliothèque-là, on n'avait pas accès aux femmes. Alors qu'elles elles font partie de 50% au moins de la littérature française. C'est quand même complètement fou. L'histoire de George Sand, le fait qu'on ne l'apprenne pas à l'école, c'est un drame absolu. C'est quand même une nana qui avait son mari qui la battait, qui était une noble, qui s'est barrée, elle a coupé ses cheveux, elle a porté des pantalons, elle est arrivée à Paris, c'était l'époque avec Musset, avec toute l'intelligentsia parisienne, et elle a fait partie des mecs, quoi. Et elle fumait des clopes et
elle s'appelait Georges.
Et elle s'appelait Georges pour créer le doute, pour pas qu'on la juge comme une femme, mais qu'on la juge pour sa littérature. C'est trop beau.
On va parler de votre bibliothèque, en tout cas d'une photographie comme ça, momentanée. On imagine que ce choix pourra bouger. Juste après cette chanson, je ne dis pas ce que c'est, mais peut-être on pourrait un tout petit peu reconnaître. No matter how hard I try, you keep pushing me aside and I can't break through. There's no talking to you. I'm so sad that you're leaving. It takes time to believe it. After all is said and done, you'll be the lonely one. Oh, oh, do you believe in life after love? I can feel something inside me say, I really don't think you're strong enough, no. Do you believe in life after love? I can feel something inside me say, I really don't think you're strong enough, no. But I know that I'll get through this. Cause I know that I am strong. No, I don't need you anymore. 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 Do you believe in life after love? I can feel something inside me say, I really don't think you're strong enough, no. Donc vous avez reconnu, vous, Barbara Pravi, cette reprise de Believe. C'est une chanson iconique de Cher, qui est tout aussi iconique. Mais ici, c'est par OK Kaya.
C'était trop beau, j'ai adoré ce moment.
On est dans le deuxième moment de cette bibliothèque pour le book club de votre bibliothèque. Et c'est un moment où on vous demande de choisir des textes. Mm-hmm. Donc c'est évidemment un exercice particulier. Chacun de nos invités décide d'interpréter cet exercice à sa façon. Comment vous avez choisi les textes, vous, Barbara Pravi?
Je me suis demandé quel livre avait marqué mon existence, en majorité.
Ni plus ni moins.
Ouais.
Ok.
Il y en a d'autres, mais c'était pas facile de choisir.
Il y en a forcément d'autres, ça on le dit toujours en préalable.
Et voilà. En plus, comme je déménage, encore une fois, j'ai les trois quarts de mes livres dans les cartons, donc du coup, j'ai pris les livres qui ont marqué ma vie et qui n'étaient pas encore dans des cartons.
Ok. Alors, on va commencer par un auteur. Il s'appelle Christian Bobin. Il est décédé en 2022. Vous avez choisi un texte très important de sa bibliographie qui s'appelle La Plus que Vive. Mais d'abord, on l'écoute.
Pour moi, le livre existe ou n'existe pas. Si un livre existe, il aide à l'ouverture. Il aide à l'ouverture des yeux. Il demande l'ouverture des mains qui deviennent comme un petit lutrin. Et puis, par grâce, peut-être, de loin en loin, il suffit d'une phrase pour justifier un livre d'ailleurs. Par grâce, peut-être, il ouvre un cœur. Et il ouvre une porte qui nous permet d'aller ailleurs que dans le monde où nous respirons mal.
L'événement de ta mort a tout pulvérisé en moi, tout sauf le cœur. Le cœur que tu m'as fait et que tu continues de me faire, de pétrir avec tes mains de disparus, d'apaiser avec ta voix de disparu, d'éclairer avec ton rire de disparu. Je t'aime, je ne sais plus écrire, je ne vois plus que cette seule phrase à écrire. C'est toi qui m'as appris à l'écrire. C'est toi qui m'as appris à la prononcer comme il faut, avec une énorme lenteur, en détachant chaque mot, avec une lenteur de plusieurs siècles, avec cette lenteur adorable qui était la tienne lorsque tu devais te livrer à des choses pratiques, faire une valise, ranger une maison. Tu es la femme la plus lente que j'ai jamais connue, la plus lente et la plus rapide. 44 ans de ta vie sont passés comme un éclair très lent, d'un seul coup avalé par le noir. Je t'aime. Cette parole est la plus mystérieuse qui soit, la seule digne d'être commentée pendant des siècles. À la prononcer, elle donne toute sa douceur, à la prononcer comme il faut, en silence, au secret de ta mort fraîche. Le « e » du dernier mot ne s'entend presque pas. Il bat des ailes et s'envole. Je t'aime, Ghislaine. Il est hors de question de mettre cette parole à l'imparfait. Les fleurs sur la tombe de Saint-Ondras, en Isère, ont fané, une semaine après l'enterrement. Je t'aime. Cette parole reste vive, et le temps de la dire couvre le temps entier d'une vie. Pas plus, pas moins.
Bon,
ben, on commence bien.
On commence fort. C'est un texte qui s'appelle « La plus que vive ». Il a paru en 1996. Il est signé Christian Bobin et c'est l'un de vos choix, Barbara Pravi. Est-ce que vous voulez nous dire pourquoi Christian Bobin et pourquoi « La plus que vive » ?
Alors, je ne sais plus qui m'avait recommandé ce livre, mais je me souviens que je l'ai lu hyper vite, juste avant mon premier album. Il a un peu guidé mon premier album, Bobin. J'ai beaucoup regardé cet homme. Il avait un côté presque un peu gourou, en fait. C'était un homme qui vivait chez lui, qui sortait quasiment jamais de chez lui. Il faisait qu'écrire. Et il écrivait des choses hyper mystiques, hyper spirituelles, hyper belles. Sur les liens entre les hommes, beaucoup. Et alors, ce livre, il est sublime parce qu'en gros, donc, il y a cette femme, Ghislaine, avec qui il ne vivait pas. Et encore une fois, il avait une façon d'écrire même l'amour, de penser l'amour qui était très spécial. Il ne vivait pas avec cette femme, mais ils étaient ensemble depuis donc 44 ans. Et
non, elle meurt non, à 44
elle
ans.
Elle est morte à 44 ans. Mais ils étaient ensemble depuis des années. Elle avait des enfants. Et elle est morte d'un seul coup. Et ce livre, c'est une espèce d'hommage à cette femme. Donc, c'est un livre qui parle du deuil, mais sans vraiment en parler, parce qu'en fait, on n'a pas l'impression qu'il fasse son deuil en écrivant ce livre, on a juste l'impression d'une longue déclaration d'amour à cette femme.
Oui, il dit « je veux pas mettre le verbe aimer à l'imparfait », il y a vraiment quelque chose de très...
Mais pendant tout le livre, il raconte des souvenirs, mais des détails, il raconte à un moment donné, je me souviens, je l'ai pas lu depuis des années, je me souviens qu'il parle d'un couloir dans une chambre où les enfants de Ghislaine mettaient leurs mains comme ça sur du papier, et donc du coup, ils avaient redécoré le couloir avec leurs mains d'enfant. Bref, il y a des détails, encore une fois, moi je suis très sensible aux odeurs, aux détails, aux mini choses qu'on voit pas presque à l'œil nu. Et Bobin, c'était un peu le roi de ça. J'ai été, mais je me souviens d'avoir terminé ce livre, de l'avoir refermé et d'avoir fondu en larmes. Quelle déclaration d'amour, quoi. C'est tellement beau, c'est tellement pur, en fait. C'est presque pas de la passion, c'est autre chose, c'est au-delà. Et j'ai trouvé ça très beau.
Pourquoi est-ce que ça a participé ou ça vous a guidé vers l'écriture du premier disque ? En quoi, par exemple ?
Je vivais une grande histoire d'amour à ce moment-là. Et j'avais fait lire ce livre-là à la personne avec qui j'étais. C'était un peu notre petit livre secret, quoi. Alors évidemment, c'est un livre que tout le monde a lu, enfin que beaucoup de gens ont lu. Mais je sais pas, pour moi, toute ma vie, ce livre, il sera lié à cette personne-là. C'est comme si on avait ouvert une boîte avec un énorme, beaucoup d'or à l'intérieur et qu'on l'avait caché dans la chambre de ce garçon-là et puis qu'il y était encore ce trésor. Pour toujours il y est, quoi. C'est marrant, ça fabrique des talismans, je trouve, les livres.
Ouais, et des territoires aussi, on a l'impression, finalement. Ça vous arrive souvent de partager des livres avec des gens que vous aimez ? Amis, amoureux ?
Moi, je suis une zinzin de l'espace. Au-delà de partager les livres, d'abord, je supporte pas qu'on me prête des livres. C'est interdit, parce que je note, j'ai des...
Donc, ou bien on vous les donne ?
Bah non, on me recommande et je vais acheter. Et en revanche, quand j'aime un livre, je l'offre à tout le monde. Bah, mon attachée de presse qui est là, elle est en train de regarder L'Art de la Joie tout à l'heure, et bah, je vais lui donner après.
Allez,
cette
hop.
Émission. Parce que...
C'est lourd, j'espère qu'elle a un grand
sac. Exactement, je vais lui donner parce que c'est lourd d'ailleurs, et j'en ai marre de le porter. Non, j'adore, je trouve que c'est...
Pour vous offrir un livre alors ?
Franchement, c'est offrir une petite maison. C'est offrir
en fait,
des petites clés, quoi. C'est trop important. Moi, on peut pas me faire plus plaisir que m'écrire une lettre ou m'offrir des fleurs ou m'offrir un livre. Je suis vraiment pas compliquée, quoi. Franchement.
Et sur le terrain de l'amour, pour vous, avec des personnes aimées, lire, ça prend une autre dimension ?
Parler de littérature, c'est important pour moi. C'est marrant, je me suis
rendu
compte que ouais, parce qu'on peut aimer n'importe quelle forme de littérature. Par exemple, moi, je connais pas du tout les mangas. Et quelqu'un qui adore les mangas et qui m'en parle, je trouve ça hyper intéressant. En fait, pour moi, c'est un terrain de communication hyper essentiel. Mais dans mes relations d'amour ou dans mes relations d'amitié, je me rends compte que tous les hommes avec qui j'ai été, j'avais besoin de leur parler. C'était important qu'on puisse communiquer à cet endroit-là.
Votre deuxième choix, ou le deuxième choix qu'on vous propose de commenter, c'est justement ce gros livre que vous allez offrir. C'est un texte de Goliarda Sapienza qui s'appelle « L'art de la joie ». Comment est-ce que vous arrivez jusqu'à lui ?
Alors, je ne me souviens plus comment je suis arrivée jusqu'à « L'art de la joie ». Je me souviens quand je l'ai lu, c'était en été, ça devait être il y a 4 ou 5 ans. Justement, « L'art de la joie », je l'ai offert ensuite à une amie qui s'appelle November Ultra, qui fait de la musique aussi. Et je me souviens de quand elle a terminé de le lire, puisque je l'attendais, elle allait se faire tatouer, je l'attendais devant chez le tatoueur, et elle a fini le livre juste avant de se faire tatouer. Et moi, j'arrive à la fin de son tatouage, elle sort de chez le tatoueur, elle était en larmes. Elle m'a dit « c'est horrible, je viens de quitter ma famille ». Et j'ai ressenti la même chose quand j'ai terminé ce bouquin, parce que l'art de la joie, c'est un... Donc on suit la vie d'une jeune femme qui s'appelle Modesta, je crois qu'au tout début elle a 5 ou 6 ans,
elle termine,
elle a 90 ans, donc en fait on voit toute sa vie comme ça défiler, c'est une vie qui est mouvementée à mourir, elle commence, elle est très pauvre, elle finit, elle est très fortunée, et pour arriver du point A au point Z, elle est tombée amoureuse d'hommes, de femmes, elle a eu des enfants, elle a tué des gens.
Enfin, elle a connu la violence,
elle a connu la violence, elle a connu la perte. C'est vraiment... je pense que c'est un grand roman d'aventure. Et ça m'étonne que ce soit pas encore, que ça n'ait pas été encore adapté au cinéma, d'ailleurs.
Au théâtre, en tout cas, ça,
c'est théâtre, sûr. Au théâtre, je sais, ouais.
Est-ce que vous pouvez nous raconter les moments de lecture, puisque vous vous dites, ok, je me souviens, c'était l'été. Alors, par exemple, c'est-à-dire, trouvait où ?
J'étais sur le solarium de là où habite mon grand-père. Il habite dans une résidence de vacances. Donc, t'as le Port Santa Lucia, là où j'ai appris à lire. Et il a une résidence. Enfin, il habite dans un appartement des années 70 avec les stores bleus. Et il y a une bande comme ça d'immeubles. Ils sont 3 immeubles. Bâtiment A, bâtiment B, bâtiment C. Lui, il est dans le bâtiment C. C'est hyper précis. Il est au deuxième étage. Et donc, t'as une piscine devant dans un petit jardin avec un grand solarium. Et je vais là-bas depuis que je suis toute petite. Et avec tous mes copains, mes copains de vacances, en fait, on passait tous nos étés à se retrouver. Et j'ai lu L'art de la joie là-bas. Je me souviens qu'au bout de la 200e page à peu près, j'ai eu un sentiment hyper bizarre. D'abord, j'arrivais pas à m'arrêter. Et surtout, je comprenais pas si c'était une biographie ou un roman. Et j'ai dû taper sur Google. Est-ce que L'art de la joie est une biographie ou un roman ? C'était trop précis pour être un roman. Et alors, j'ai fini le bouquin. Ensuite, j'ai lu tout Goliarda Sapienza parce que dans ma monomanie, je vais tout droit, quoi. Et je me suis rendu compte d'abord que ses autres bouquins étaient vachement moins bien. Mais ils étaient vachement moins bien parce que L'art de la joie, c'est l'aboutissement de tout ce qu'elle avait écrit avant. C'est-à-dire que tout ce qu'elle a écrit avant se retrouve dans L'art de la joie et c'est romancé, justement. Alors qu'elle a été hyper prom-dug dans ses autres, dans ses autres bouquins. Donc, du coup, c'est fou. Ça donne lieu à des images, des émotions. Par exemple, à un moment donné, cette femme, elle va en prison et la façon qu'elle a de raconter la prison, elle est folle. Tu te dis, c'est pas possible, elle a forcément été en prison pour le raconter. Bah oui, elle a été en prison. Sauf que là, dans ce roman, c'est Modesta qui est en prison. Donc c'est à la fois empreint d'une forme de vérité et de ressenti et de vécu, et à la fois empreint d'imaginaire.
Je reviens au solarium de votre grand-père, et puisque vous dites avec des copains, mais ça pourrait paraître complètement, surtout quand on est jeune, comme ça, difficile de mélanger bande de copains, solarium, piscine et lecture, non ? Vous étiez dans une bande de copains où c'était possible ?
On rajoute des petites parties de Uno au milieu et on est bien.
Et on est bien. On vous écoute dans un extrait de L'art de la joie de Goliarda Sapienza.
Et voyez, me voici à 4, 5 ans. Traînant un bout de bois immense dans un terrain boueux. Il n'y a pas d'arbres ni de maisons autour. Il n'y a que la sueur, due à l'effort de traîner ce corps dur, et la brûlure aiguë des paumes blessées par le bois. Je m'enfonce dans la boue jusqu'aux chevilles, mais je dois tirer. Je ne sais pas pourquoi, mais je dois le faire. Laissons ce premier souvenir tel qu'il est. Ça ne me convient pas de faire des suppositions ou d'inventer. Je veux vous dire ce qui a été sans rien altérer. Donc je traînais ce bout de bois, et après l'avoir caché ou abandonné, j'entrais dans le grand trou du mur, que ne fermait qu'un voile noir couvert de mouches. Je me trouve à présent dans l'obscurité de la chambre où l'on dormait. Où l'on mangeait pain et olives, pain et oignons. On ne cuisinait que le dimanche. Ma mère, les yeux dilatés par le silence, coud dans un coin. Elle ne parle jamais, ma mère. Ou elle hurle, ou elle se tait. Ses cheveux de lourds voiles noirs sont couverts de mouches. Ma sœur, assise par terre, la fixe, de deux fentes sombres, ensevelie dans la graisse. Toute la vie, du moins ce que dura leur vie, elle l'a suivie toujours en la fixant de cette façon. Et si ma mère, chose rare, sortait, il fallait l'enfermer dans les cabinets parce qu'elle refusait de se détacher d'elle. Et dans ces cabinets, elle hurlait, elle s'arrachait les cheveux, elle se tapait la tête contre les murs jusqu'à ce qu'elle, ma mère, revienne, la prenne dans ses bras et la caresse sans rien dire.
En réalité, c'est le début de l'art de la joie de Goliarda Sapienza que vous venez de lire, Barbara Pravi. Et moi qui oublie toujours tout des livres que je lis, c'est vraiment un début qui est resté très fort dans ma tête, notamment avec ce bout de bois.
Moi aussi.
Ouais, parce que, et puis petit à petit aussi, ces disputes avec la sœur, la mère et le bout de bois donnent lieu à des considérations très torves sur le rapport au plaisir, à la découverte du plaisir sexuel pour cette petite fille. C'est vraiment une entrée en matière qui est sidérante, en fait.
Franchement, quand je me suis demandé, parce que l'art de la joie, c'était, je savais que j'allais choisir ce livre. Et c'est-à-dire que c'était, s'il y a bien un passage évident dans tous les passages que j'ai choisis, c'était cette première page. Mmh. Parce que je me souviens de la sensation de poignard quand j'ai commencé ce bouquin. C'était la première fois, et d'ailleurs à ce jour, c'est toujours le cas. J'ai jamais lu un bouquin qui m'a autant marqué. Je me souviens de cette première page.
Ouais. C'est pas toujours le cas. Parfois, il faut être patient. Parfois, oui. On rentre dans un texte et puis il faut se laisser amadouer ou soi-même amadouer le texte. Et là, c'est vrai que cette première page, elle est
intense. Mmh. Et puis alors, ça plante le décor direct, quoi, avec cette sœur qui crie dans les toilettes. Et puis en fait, on se rend compte qu'elle est malade. Je crois qu'elle est malade mentale. Mmh. Enfin, c'est vraiment hyper dur, en fait. Ça plante le décor de cette jeune fille. De façon hyper crue, quoi.
Et la voix aussi, la voix de la narratrice, puisqu'il me semble que dans le début, elle dit « Attendez, non, je vais vous dire les choses vraiment. » Et depuis le début, quand même, on tourne autour de cette question-là, Barbara Pravi, l'idée que raconter des histoires, c'est aussi dire les choses, c'est aussi dire le réel, quelque chose comme ça qui est très important, dont vous parlez aussi quand vous parlez de l'écriture des chansons, que c'est raconter des histoires, mais pas pour aussi... Pas que, en tout cas, pour inventer des mondes, c'est aussi pour dire le monde, quoi,
bien sûr.
Il est.
Bien sûr.
Quelque chose d'important aussi, comme ça.
Bah, c'est ça qui est... C'est marrant, la littérature, c'est un mix entre une trop grande fiction et une trop grande réalité, quoi. Et je pense que c'est pile entre les deux.
La troisième étape dans votre bibliothèque, c'est un long poème. Mm-hmm. On remonte complètement le temps, on quitte l'Italie, on va plutôt vers des terres iraniennes. Et on va écouter d'abord, avant toute chose, avant d'entrer dans le Cantique des oiseaux, Leïli Anvar, qui parle de ce grand poème du XIIe siècle.
Dans les cercles soufis, ce poème est lu, médité, raconté quelquefois. En tout cas, l'histoire est très connue et il y a des passages qui sont vraiment des morceaux d'anthologie. Et c'est vrai que cette traversée des oiseaux est devenue le symbole par excellence du cheminement de l'âme dans le monde. Et chacun des oiseaux, en réalité, représente un des aspects de nous-mêmes. C'est-à-dire qu'en réalité, le cheminement commence toujours par là, c'est-à-dire par être confronté à ses propres peurs, à ses propres attachements, et en même temps avoir en soi ce désir profond de cheminer vers l'absolu.
La réponse de la huppe au rossignol. La huppe répondit : Ô prisonnier des formes, cesse d'aimer d'amour sa gracieuse beauté. Sais-tu que cet amour t'a plongé dans les ronces ? Cet amour qui te tient, sais-tu qu'il te retient ? La rose est certes belle, mais toute sa beauté, éphémère qu'elle est, ne durera qu'un jour. Pour les âmes parfaites, ces amours ne sont rien qu'une pauvre illusion, source de lassitude. Car bien que son sourire te fasse chavirer, la rose, nuit et jour, te fera bien pleurer. À la rose renonce, puisqu'à chaque printemps, elle rit, non pour toi, mais de toi, malheureux.
Alors c'est la réponse de la huppe dans ce grand cantique des oiseaux, et puis on entendait une archive de Leïli Anvar qui a traduit ce poème qui date du XIIe siècle, un poème qui est signé Attar, qui est un poète que vous choisissez de nous lire, Barbara Pravi. Ok, la réponse de la huppe, mais il faut qu'on ait juste en substance, que dit le rossignol, où est-ce qu'on est?
Alors en fait, le concept de tout le départ du cantique des oiseaux, c'est qu'il y a tous les oiseaux du monde qui se réunissent et ils vont devoir cheminer vers une forme d'absolu, quoi. Ils sont guidés par la huppe. Et donc, ils vont tous trouver chacun leur tour. Donc, t'as, je sais pas, le paon. Donc là, c'était... Moi, j'ai répondu au rossignol, mais il y avait le paon, il y a... faut imaginer le corbeau, enfin, tous les oiseaux, quoi. Ils trouvent tous des excuses pour ne pas changer leur façon de vivre, pour ne pas partir, pour ne pas cheminer avec la huppe vers quelque chose de plus grand, de plus absolu. Et à chaque fois, la huppe leur répond contextuellement, quoi, par rapport à leurs excuses à eux. Et juste après ça, il y a des petits contes persans qui sont liés à ce que la huppe répond. Donc là, en gros, le rossignol, c'est quelqu'un d'assez vaniteux. Il est amoureux de la rose. Donc lui, ce qu'il lui dit, c'est « Écoute, pourquoi est-ce que moi, je partirais avec toi voir quelque chose que je ne connais pas, alors que j'ai la rose qui est là et qui fleurit chaque printemps et dont je suis éperdument amoureux. »
Je suis
et
bien là où je suis.
Je suis très bien là où je suis. Et en gros, la huppe, elle lui dit « Bah, ok. » Ok, t'es amoureux de la rose, mais je te signale que la rose, elle en a rien à faire de toi. De toute façon, elle meurt chaque année, elle renaît au printemps, et d'ailleurs, elle dit voilà, à la rose renonce, puisqu'à chaque printemps, elle rit, non pour toi, mais de toi malheureux. Donc ça veut dire ne t'attache pas à ce qui est matériel, ne t'attache pas à la beauté de la rose, et chemine pour toi, plutôt que pour être, ne reste pas attaché à quelque chose de matériel, en gros. Et donc voilà, c'est vraiment un livre qui est complètement mystique d'ailleurs, qui est très spirituel.
Oui, on entendait Leïli Anvar dire que c'était des poèmes qui étaient dits, qui étaient pensés, chantés dans les cercles soufis.
Oui, bien sûr.
Vous, comment est-ce que vous y avez accès? Est-ce que vous vous souvenez comment vous arrivez au Cantique des oiseaux?
Bah, ma mère est iranienne d'origine, donc du coup, toute la littérature, la peinture persane, etc., la musique même, c'est des choses qui ont toujours été, qui ont toujours existé autour de moi. Donc, les contes persans, puis c'est quelque chose que j'aime beaucoup. Moi, je trouve. Alors, dans le livre que j'ai moi, c'est une édition qui est magnifique, avec des enluminures persanes, et en fait, ça illustre parfaitement ce poème, quoi. Je sais pas, moi c'est vraiment un truc de transmission, quoi. J'ai toujours eu ce livre chez moi, je l'ai toujours regardé, je l'ai toujours trouvé très beau. Et puis quand je l'ai lu pour la première fois, c'était il y a pas si longtemps, c'était il y a 6 ou 7 ans, j'ai été envahie, quoi. La spiritualité de ce livre est sublime.
Et il est question d'oiseaux. L'oiseau, c'est aussi quelque chose que vous utilisez dans vos chansons. C'est une métaphore quand même, cette histoire-là d'oiseau, qui peut-être parler, là, évidemment, il est question d'amour. Quand on parle d'amour, le rossignol, bon, voilà, il y a quelque chose. Mais il y a aussi l'idée de la migration, du voyage, du cheminement. Et il se trouve que dans le dernier disque, vous vous référez à des origines, vous référez aux histoires anciennes, vous référez aux choses qu'on raconte. Donc, c'est à la fois les êtres qui migrent, mais aussi les histoires qui migrent. Mmh. Tout ça, c'est des choses auxquelles vous avez toujours été sensible. Vous avez toujours eu envie de savoir d'où vous venez, d'où viennent les gens qui sont vos ancêtres. Ça a toujours été une curiosité. Ou c'est plus récent?
C'est plus récent, je crois. En fait, j'ai l'impression qu'on grandit de toute façon toutes et tous avec des codes, en tout cas des choses acquises. Voilà, on a notre père, notre mère, nos grands-parents, on sait d'où ils viennent, mais en vrai on se questionne pas trop parce que voilà, on sait. Par exemple, moi j'ai grandi quand même avec un grand-père qui a un accent serbe, il me parle comme ça toute la journée et pour moi c'est normal, donc je me suis jamais dit mon grand-père a des origines, enfin voilà. Et un jour, on décide, je crois, c'est souvent quand on passe le cap de la trentaine, on décide de péter un peu les murs qui façonne nos existences et d'aller voir un peu plus loin. Et je crois que c'est quand on va voir plus loin, en fait, on se rend compte qu'il y a tellement de choses à apprendre des personnes qui sont les plus proches de nous, de nos parents, de nos mères, nos pères, nos grands-parents, etc. Et moi, j'ai eu besoin de comprendre mon histoire. D'ailleurs, j'ai pas fini ma quête. Hein. J'ai l'impression que c'est un truc un peu infini. Je suis retournée en Serbie, par exemple, pour aller sur les traces de ma famille là-bas. Je sais pas, je trouve qu'en fait, avant, on vivait que comme ça, on vivait que dans le lien et la transmission. Et aujourd'hui, on vit une époque qui nous coupe aussi vachement de nos racines, qui nous coupe vachement de la mystique de nos existences, en fait.
Et quand on parle depuis le début de cette émission de raconter des histoires, à qui vous avez demandé, Barbara Pravi, de vous raconter les histoires, les fameuses fables anciennes qui passent de mémoire en mémoire? Vous êtes allée interroger qui?
Déda, mon grand-père serbe, il est bizarre. Lui, ça, il ne demande que ça, de raconter son histoire. Donc il était très content et il a toujours des nouvelles infos à me donner. Lui, c'est quelqu'un, c'est marrant, il y a différentes sortes d'immigrés et lui, c'est quelqu'un qui est arrivé en France. Et alors au départ, je pense que comme tout le monde, il a voulu effacer ses origines pour s'inclure dans un pays. Donc il a élevé tous ses enfants, ils s'appellent Marc, Anna, Mylène, enfin ils ont des noms très français quoi. Et puis je crois qu'on a tous un petit peu cherché à comprendre... lui, ce qu'il avait vécu, parce qu'il a quand même passé 21 ans de sa vie dans un pays qui est pas la France. Et il y a quand même 21 ans d'existence qui existe. Et puis 21 ans, c'est sa vie à lui. Mais ensuite, il y a la vie de ses parents à lui. Je veux dire, ça parle d'exil, ça parle d'exode. C'est quand même hyper riche. Et je crois qu'il a choisi, en vieillissant, quand ma grand-mère est tombée malade, il s'est dit, mais en fait, je veux pas mourir. Et que cette histoire s'arrête avec moi. Et que ses souvenirs s'arrêtent avec moi. Et du coup, il a commencé à nous transmettre à ce moment-là, je dirais il y a une dizaine d'années. Et depuis, il n'arrête pas.
Et là, il vous raconte quoi?
Il nous raconte tout. Il nous raconte... lui, il a vécu la guerre, donc... il nous raconte comment c'était Belgrade pendant la guerre. Il nous raconte qu'avec ses parents, par exemple, ils vivaient dans une ville à 3 heures de Belgrade. Et une nuit, son père est arrivé. Il l'a dit « Faites vos affaires, partez maintenant ». Il est parti avec une valise, avec 2 t-shirts dedans. Ils sont rentrés à Belgrade. Ils ont pris le dernier train, en fait, qui les emmenait à Belgrade. Et 1 heure après, la ville brûlait. Donc si mon arrière-grand-père n'était pas arrivé pour le sortir de là, enfin pour annoncer que les Allemands arrivaient, on ne serait pas là toutes les deux en train de discuter, par exemple. Donc et toutes les familles sont remplies de choses comme ça, qu'on soit en France, qu'on soit en Allemagne, qu'on soit en Serbie, qu'on soit en Iran, on a tous des histoires de traversées. J'ai une grand-mère, donc la mère de Déda. Pendant la Première Guerre mondiale, ils sont partis dans les montagnes, ils ont marché parce qu'ils se sont fait chasser de leur village, pareil, par les armées austro-hongroises. Et dans un port, elle a perdu son père. Elle était toute seule, fille unique. Elle a perdu son père, elle s'est retrouvée dans un bateau, toute seule, à 12 ans, qui l'a emmenée en Corse. Et donc, de ses 12 ans à ses 17 ans, elle était entre la Corse, puis ensuite, on l'a emmenée à Paris. Elle était toute seule, elle a appris à parler français, elle a appris à lire le français, elle a été au cours Pigier, donc elle a appris à être sténodactylo. Puis quand la guerre s'est terminée, il y avait un registre des Serbes qui avait été foutu un peu partout. Elle a retrouvé son père. Donc elle a été séparée de sa famille, de sa seule racine pendant 5-6 ans. Elle l'a retrouvée, ils sont repartis à Belgrade. Je veux dire, qu'est-ce que ça raconte?
Mais justement, j'allais vous dire, qu'est-ce que ça raconte et qu'est-ce qu'il y a, Barbara Pravi, dans toutes ces histoires de fuite, de faire ses valises, de traverser le pays, mais aussi de détermination à traverser la vie, à débarquer dans des endroits, à s'en sortir. Je pense, je rembobine tout notre entretien et je pense à la jeune femme que vous êtes à 14 ans en disant... Je dis lapsus, en disant je serai cette femme-là, je serai cette femme qui écrit, je serai cette femme qui pense, je serai cette femme qui lit. Est-ce que vous avez l'impression, en conscience, d'avoir des choses de tous ces parcours de vie qui sont quand même, même si bien sûr, il y a plein de familles qui ont migré, mais c'est quand même pas rien de porter ces histoires en soi.
Plus je vieillis, plus je me sens. Je me sens investie d'une mission, mais qui est juste en lien avec ma famille, en fait. C'est-à-dire. C'est vrai que plus je vieillis, plus j'ai l'impression de devoir la comprendre, cette histoire, de devoir l'écrire, de devoir en parler. Mais pour moi, en fait, c'est important pour moi.
Mais vous avez l'impression d'en avoir hérité, y compris dans ce que vous êtes?
Bien sûr, c'est sûr. C'est sûr. Et c'est marrant, il y a beaucoup, beaucoup de femmes très puissantes dans ma famille, mais pas puissantes au sens auquel on pense aujourd'hui. Les femmes puissantes d'avant, elles avaient une autre puissance. J'ai l'impression d'avoir que des espèces vieilles sorcières dans ma famille, en fait. Que des femmes qui ont beaucoup donné, beaucoup transmis, qui ont beaucoup gardé, qui ont beaucoup aidé, qui ont été très indépendantes très vite. Je veux dire, cette arrière-grand-mère qui s'est démerdée toute seule de ses 12 à ses 17 ans et puis qui ensuite a été orpheline puisque son père est mort quand ils sont rentrés à Belgrade, qui a élevé mon grand-père. Enfin, il y a tout un espèce de truc de femme vraiment très fort, quoi, dans ma famille.
Ce qui nous emmène vraiment sans effort vers un autre choix. Un texte de Mona Chollet que vous avez choisi de nous lire. Donc c'est le seul texte théorique que vous avez choisi, Barbara Pravi. C'est un essai que Mona Chollet a publié et qui a connu un énorme succès. Est-ce que vous voulez nous dire, est-ce que vous venez de faire l'introduction toute seule de pourquoi est-ce que ce texte compte pour vous ou est-ce qu'il y a d'autres raisons? Vous avez dit, j'ai l'impression d'avoir que des sorcières dans ma famille.
Oui, c'est vrai. Non, quand j'ai lu ce livre, ça a été mon premier pas vers le féminisme. En tout cas, vers la découverte des femmes autrices de théories féministes. Donc, Mona Chollet, je pense à Pénélope Bagieu aussi, qui a écrit donc ces fameuses BD. Il y en a plein, il y a Titiou Lecoq, etc. Et c'est vrai que Sorcières, j'ai adoré cet essai parce qu'en fait, c'est une proposition. Elle nous dit pas voilà ce que c'est la vie, voilà ce que c'est que d'être une femme. Elle nous dit voilà ce qui s'est passé dans l'histoire des femmes et voilà ce que j'en pense. Mais vous n'êtes pas obligé de penser comme moi. C'est-à-dire que je me sens pas, j'ai pas l'impression que ma pensée, elle est orientée quand je lis Mona Chollet, jamais d'ailleurs. Et c'est ce que j'aime avec cette femme, c'est qu'en fait elle dit voilà moi ça c'est les recherches que j'ai faites, ça m'a mené à ces conclusions là et vous pouvez les prendre ou ne pas les prendre. En fait moi je m'en fous. Ça c'est mes conclusions.
On lit un extrait ?
Avec plaisir.
Allez.
Alors, quand un homme, en milieu de vie, échange sa compagne contre une plus jeune, cela peut jeter le doute, rétrospectivement, sur les motivations qui l'ont fait rester dans cette première relation. La femme quittée peut se demander s'il n'a aimé en elle que sa jeunesse, s'il n'appréciait pas avant tout les services rendus, ainsi que le statut que lui donnait le couple et la paternité. Mais surtout, une question se pose. Et s'il ne pouvait aimer qu'une femme qu'il domine ? Car ce schéma implique une double violence, à l'égard de l'épouse délaissée, mais aussi, de manière plus feutrée, à l'égard de la nouvelle compagne. Lorsqu'il évoquait sa relation avec Sunny Previn, Woody Allen précisait ne pas considérer l'égalité comme un prérequis dans un couple. Parfois, je cite, « parfois l'égalité dans une relation est formidable, mais parfois aussi, c'est l'inégalité qui fait que ça marche. » Fin de citation. Même si le déséquilibre n'est pas toujours massif et s'il n'est heureusement pas toujours recherché de façon délibérée, la différence d'âge augmente la probabilité que l'homme ait l'avantage sur au moins un de ses plans, social, professionnel, financier, intellectuel. Dès lors, ce que recherchent certains hommes, ce n'est peut-être pas tant un corps féminin jeune que ce qu'il dénote, un statut inférieur, une expérience moindre.
Quand vous dites que c'est votre porte d'entrée vers des lectures plus théoriques sur le mouvement féministe de Barbara Pravi, ça veut dire qu'à un moment donné, dans votre parcours, vous avez eu besoin de ça, vous avez eu besoin d'avoir des lectures plus théoriques pour penser votre propre condition de jeune femme, de femme.
Complètement. De la même façon que je me suis faite une bibliothèque de femmes autrices, je me suis faite une bibliothèque de féministes, quoi, qui sont évidemment aussi des autrices, mais c'est un autre genre de littérature. Et en fait, moi, ça m'a vraiment permis... J'ai toujours eu beaucoup, beaucoup de violence en moi, liée aux injustices, liée à l'incompréhension, liée tout simplement à des violences que j'ai vécues, etc. Et j'ai toujours eu du mal à les comprendre et à les mettre en mots. Et lire des autrices telles que Mona Chollet, ça m'a vraiment permis d'abord de me rendre compte que j'étais pas toute seule, et surtout que j'étais pas zinzin, quoi. Et que c'était légitime de ressentir ce que je ressentais, et que c'était pas grave, et que c'était d'accord de passer d'abord par la violence, avant de passer par une phase de compréhension, puis de transcender cette violence. Voilà, c'est vraiment, j'ai compris ce que ça voulait dire d'être une femme, l'histoire plus ou moins globale de la femme dans l'histoire, justement, avec un grand H, et j'ai compris que j'avais envie d'être une femme puissante, quoi. Et puissante, pas dans le sens dominatrice. Pour moi, la domination, c'est pas un mot que j'aime. C'est vraiment puissante dans le sens puissante avec moi-même, puissante dans mes émotions, dans la façon que j'ai de pouvoir les exprimer, puissante dans mon art, puissante dans l'envie que j'ai de ne me mettre aucune limite. Par exemple, voilà, là, je suis chanteuse, je suis en tournée, j'écris un roman. Si demain j'ai envie d'adapter mon roman en film, je déplacerai les montagnes pour le faire et j'y arriverai. En fait, voilà, je veux réussir à faire les choses et les faire pour moi parce qu'en fait, j'ai envie de compter dans ma propre vie.
Et ça a été permis, cette pensée-là, telle que vous l'articulez là, ça a été permis par des lectures. Parce que vous avez lu que ça a modifié votre position.
Entre autres. Bah, évidemment, c'est pas seulement des lectures, c'est un travail qui est pas solitaire, en fait. C'est les lectures, les personnes qui nous entourent, les amitiés d'avant et les amitiés qu'on crée, les amours aussi. la famille, tout ça, ça permet de constituer une personnalité, je crois, et d'apprendre à s'accepter et d'apprendre à accepter d'être puissant, quoi. Je crois que les femmes, elles doivent accepter d'être puissantes, quelles qu'elles soient, en fait.
C'est pas facile d'accepter ça ?
Non, je pense pas. J'ai une de mes meilleures amies qui est en train de... Là, elle a réalisé un film, par exemple, qui va bientôt sortir. Et la meuf, elle déplace des montagnes tous les jours de sa vie. Et quand on lui parle dans le privé, c'est marrant, elle se dévalorise beaucoup. C'est un truc de meuf de se dévaloriser. Un mec qui déplace pas forcément le quart des montagnes que ma copine déplace, eh ben, il aura pas le réflexe de dire « Oui, mais tu comprends... »
C'est des toutes petites montagnes.
Oui, voilà. Alors qu'en fait, non, c'est des montagnes énormes. Et on est conditionné vachement en tant que femme à minimiser nos forces, à minimiser nos, ouais, presque notre dignité, quoi. Et les hommes sont conditionnés à être bien dans leur peau, presque. Et voilà, je crois que c'est une petite balance à rééquilibrer.
Et la lecture, ça participe de rééquilibrer ces balances pour vous ?
Oui, je pense. Mmh. La lecture, le cinéma, l'art, en fait, en règle générale. C'est pour ça que l'art a une force folle et que pendant les guerres, on va dans les musées et on pille les œuvres et on les détruit.
On fait des concerts clandestins.
Ouais, voilà.
Tout à l'heure, vous avez mentionné votre âge. Est-ce que vous avez l'impression qu'autour de vous, avec des amis, que ce soit, voilà, quel que soit leur genre, ce sont des lectures qui sont partagées, qui sont discutées, qui sont importantes, qui sont dans l'air du temps, ces lectures féministes ? Pas spécialement.
Bah de plus en plus. Alors ce que j'aime, c'est que on pourrait dire, il y a quelque temps, on aurait pu dire que Sorcière c'était un livre de femmes, mais en fait moi je l'ai filé à tous mes copains et
il faudrait que ce soit un livre de tous, oui.
Bah c'est ça, je crois que de plus en plus, moi je vis dans un monde où et les hommes et les femmes lisent la même littérature. Quand moi je recommande quelqu'un un livre à un ami, en fait il se dit pas c'est un livre de meuf ou c'est un livre écrit par une meuf, il se dit c'est Barbara qui me l'a conseillé, ça veut dire que peut-être ça va me plaire, et si ça me plaît pas je pourrais expliquer pourquoi ça me plaît pas. Et en fait ça crée des débats, ça crée de la mise en commun d'intelligence en fait.
Le dernier choix, le dernier de vos choix, Barbara Pravi, s'est tourné vers un roman. C'est un roman qui s'appelle Reste, qui est signé Adeline Dieudonné. Pourquoi vous avez choisi ce livre ?
Parce que je suis en train de le lire.
Ah, je l'ai pas fini. Il en fallait un.
Ouais. Et je l'ai choisi parce que j'ai été hyper touchée par l'extrait que je vais vous lire. J'ai constaté ces deux, trois dernières années qu'il y avait une chose qui était hyper douloureuse. Au-delà de... C'est-à-dire, pour moi, il y a les ruptures amoureuses et puis il y a les ruptures d'amitié. C'est hyper dur de vivre une rupture d'amitié. Parfois, on ne comprend pas trop pourquoi est-ce qu'on a une amitié qui peut durer depuis des années et d'un coup, elle se brise et puis d'un coup, on n'est plus d'accord. Et puis, d'un coup, nos chemins ne se retrouvent plus. Puis, ils n'avancent même plus en parallèle. Ils ont vraiment pris gauche-droite. Et puis en fait, tu ne sais pas trop si un jour ça se recroisera ou pas. Et je crois que parfois, il faut accepter de laisser les choses derrière soi. Moi, c'est des choses qui sont très dures pour moi parce que j'ai besoin, quand j'ai des liens forts avec des gens depuis longtemps, j'ai besoin de faire en sorte que ça existe pour la vie. Et en fait, je crois que parfois, c'est ni de la faute de l'un, ni de la faute de l'autre, c'est juste de la faute du temps, de la vie, des histoires différentes, des choix de vie différents. Et c'est le travail que je fais en ce moment, c'est d'apprendre à accepter de n'avoir autour de moi que des choses, que des relations légères et lourdes. C'est-à-dire légère dans ce qu'elles apportent de douceur et de tendresse, et lourde dans ce qu'elles ont de sens. Et quand j'ai lu ce passage-là, qui est au tout début de ce livre d'Aline Dieudonné, je me suis dit, mais mon Dieu, ça m'a permis de laisser un peu la pierre de cette amitié que j'ai du mal à laisser tomber.
Bon, bah on lit alors.
Ouais, carrément. Il y avait ces mots qui flottaient entre nous, que nous n'avions plus besoin de prononcer. Entre guillemets, aussi léger à porter que fort à éprouver. C'était comme ça que nous définissions notre lien. Nous en avions fait une sorte de devise ou une promesse que nous avions empruntée à Camus ou à René Char, je ne sais plus. L'un écrivait à l'autre. Plus je vieillis et plus je trouve qu'on ne peut vivre qu'avec les êtres qui vous libèrent, qui vous aiment d'une affection aussi légère à porter que forte à éprouver. La vie d'aujourd'hui est trop dure, trop amère, trop anémiante pour qu'on subisse encore de nouvelles servitudes venues de qui on aime.
En effet, c'est très court et très percutant, mais elle parle pas d'un amant.
Elle parle d'un amant.
Peu importe, oui, c'est
mais
ça.
Mais en fait, cette phrase-là, c'est Camus qui a envoyé ça à René Char. Je trouve qu'en fait, elle peut parler de n'importe quelle forme de relation.
Elle cite une lettre que Camus envoie à René Char, qui sont amis.
Exactement.
Mais
elle écrit. Alors, il est un peu complexe ce livre. C'est la femme qui écrit vient de perdre son amant.
Et elle écrit à la
femme de cet amant.
L'amant étant mort.
L'amant vient de mourir. Et
elle veut pas rendre le corps de cet amant mort.
Exactement.
Et elle s'adresse à la femme.
Et elle raconte leur histoire.
D'amour.
Et en fait, c'est hyper. Donc j'en suis à la page 50, donc c'est encore le début, mais c'est hyper intense parce que du coup, faut imaginer que t'as cette femme qui doit lire ce que moi je suis en train de lire, sauf que c'est son mec qui est mort, quoi. C'est hyper glauque.
Et c'est l'amante de son mec qui lui écrit.
Et elle raconte toute sa vie, elle y va pas avec le dos de la cuillère, quoi. Elle y va, elle raconte comme ils ont été amoureux. Mais c'est pas du tout bizarre, c'est pas du tout anti-sororité, justement. Je pense qu'elle sait pas à qui se confier, cette pauvre femme, et qu'en fait, c'est une histoire de deuil quelque part, c'est un peu comme Bobin, c'est-à-dire que on sait pas comment est-ce qu'on gère la mort, comment est-ce qu'on gère la perte de quelqu'un qu'on aime et l'absence. Je trouve que l'écriture, ça permet vraiment de se libérer d'une forme de lourdeur sur les épaules, quoi, d'un poids énorme.
Ce serait un mot de la fin, par exemple. On a commencé par Bobin et on termine avec Dieudonné, et il est question de...
De let go. Et que ce soit en amour, en amitié, je crois qu'il faut let go.
Perdre avec grâce, quoi. Ouais. De perdre avec légèreté.
Je crois qu'il faut, s'entourer de gens qui ne nous prennent pas d'énergie.
Qui ne nous pèsent pas.
Non, les livres ne pèsent pas. Entourez-vous de livres.
Les livres pèsent.
Ils pèsent dans un sac
à
dos.
Ils sont lourds, légers. Exactement. Ah, merci beaucoup, Barbara Pravi.
Merci beaucoup, je suis ravie.
Votre bibliothèque avec le Book Club de France Culture. On se quitte avec une de vos chansons.
Chez moi on parle avec le cœur, on sait la bonté sans jugement. Oui, chez moi quand on tend les mains, c'est pour offrir ce qu'il y a dedans. Chez moi il y a mille et une nuits, nos yeux transpirent l'or et le feu. Il y a des tables remplies de fruits, les lèvres ont l'accent de mes vieux chez moi. Certains roulent les airs, d'autres parlent peu ou parlent fort. Qu'ils viennent des neiges ou des déserts, ils ont tous un jour pris le nord. On se raconte des fables anciennes qui passent de mémoire en mémoire. On sait où poussent nos racines, on n'a pas honte de notre histoire. Je viens de partout chez moi, les gens s'aiment, ils font fleurir des graines pour qu'elles deviennent vie. Je viens de partout chez moi, les gens s'aiment, les différences sont belles puisque je suis en vie. Dans mon sang, il y a la guerre, la perte et les départs, mais il y a surtout l'amour, l'amour. Dans mon sang se mélangent les peuples et le brouillard, mais il n'y a que l'amour qui raconte bien mon histoire. Oh, 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 oh. Chez moi, il y a combien de destins qui mériteraient d'être entendus.
Au son aujourd'hui, c'était Olivier Arnay. À la réalisation, c'était June Loper. Vous retrouverez toutes les références des textes évoqués par Barbara Pravi sur la page du Book Club franceculture.fr. Et c'est aussi sur cette page que vous retrouvez tous nos portraits de bibliothèque. Un immense merci à toute l'équipe du Book Club.
Qui chantait le soir au coin du feu. Je porte son nom, je brandis sa flamme quand je me tiens là devant vos yeux. Je viens de partout chez moi, les gens s'aiment, il faut fleurir des graines pour qu'elles deviennent vie. Je viens de partout chez moi, les gens s'aiment, les différences sont belles puisque je suis en vie. Dans mon sang, il y a la guerre, la perte et les départs, mais il y a surtout l'amour, l'amour. Dans mon sang se mélangent les peuples et le brouillard, mais il n'y a que l'amour qui raconte bien mon histoire. Oh, 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 oh. S'il ne faut retenir qu'une chose, c'est que chez moi c'est le partage. Bien sûr que ce n'est pas toujours rose, mais on a le cœur en héritage. Chez moi il y a la transmission, ça sent la ville, ça sent la mer. L'argent se compte en tradition, en larmes sur les joues de mon grand-père. Chez moi, les femmes ont de la force, les hommes n'ont pas peur de pleurer. Nos peaux sont dures comme de l'écorce, qui que l'on soit on est aimé. Chez moi personne ne meurt vraiment, car tous deviennent des souvenirs qu'on chante ensemble au soir tombant. Oui, chez moi les morts ont le sourire.
Je viens de partout chez moi, les gens s'aiment. Chez moi les gens s'aiment, les différences sont belles puisque je suis en vie. Je viens de partout chez moi les gens s'aiment, il faut fleurir les graines.
Je viens de partout chez moi, les gens s'aiment, s'aiment, les différences sont belles puisque je suis en vie.